Beaucoup d'équipes de la Ligue nationale ont fait jaser cette semaine, pas toutes pour les bonnes raisons. J'ai nommé les Pingouins, j'ai nommé les Sénateurs. On va faire le tour de ça avec Bruno Gervais. Mais tout d'abord, Bruno, qu'as-tu pensé du match d'hier? Bon dimanche à toi.
Bon dimanche à toi, Evelyne. Un plaisir, premièrement. Première fois qu'on se parle en nom, c'est un plaisir. Félicitations pour cette
pour
opportunité.
Pour votre beau programme.
Ben oui, pour le beau programme.
Alors, ben oui, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis, ben, je pense qu'on va se parler souvent. Si tu es pertinent, c'est ton premier test, là.
Oh, OK, tu mets la pression. Mais moi, on va commencer avec le match d'hier.
Vas-y.
Moi, j'ai adoré ce match-là pour plusieurs raisons. Et même que pour Claude Julien, là, oui, c'est une défaite, mais des fois, là, c'est des bonnes munitions pour toi, là, des bonnes munitions du fait que ça a été de l'adversité.
Oui.
Et les Flames, il y a eu des ajustements. Le Canadien avait fait des super bons ajustements pour la première période. Je t'écoutais parler avec Guillaume, les Flames aussi. Tu sais, ces deux entraîneurs qui se connaissent très bien, là, Ward et Julien, là, ont déjà travaillé ensemble. Donc, il y avait ces ajustements-là et ça vaut la peine de les faire, de s'appliquer à faire ces ajustements-là parce que c'est des mini-séries super importantes qui ont des équipes de division. Dans une saison régulière, tu vas jouer contre les Kings le mardi, les Hurricanes le jeudi, puis là, le samedi contre Toronto, t'as pas le temps de mettre l'emphase sur ces changements-là aux entraînements ou même sur la vidéo. Donc, tu es plus concentré à avoir un style à toi. Puis tu vas peut-être essayer de faire une tweak ici et là, mais ça devient trop au courant d'une saison. Ça va vraiment arriver pendant les séries éliminatoires. Là, c'est ce qu'on vit. Tu fais face à une équipe pendant deux matchs, donc tu as une semaine pour te préparer pour ça. Il y a des ajustements à ces matchs-là, il y a beaucoup de vidéos, puis veux pas, tu as juste six équipes à apprendre. Six équipes à apprendre à connaître, puis plus ça va aller, plus on va voir de ces ajustements-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que les Flames ont amené un élément qui n'avait pas été amené contre le Canadien depuis le début de la saison, c'est l'élément physique. Et c'était partout sur la patinoire. Mmh. La façon que les défenseurs des Flames ont empêché les attaquants du Canadien de se rendre au filet, même au cercle des mises en jeu, combien on a vu de coups pendant le match? Il y a eu un coup vers la fin du match, on a vu Nick Suzuki pogner les nerfs, puis il a donné un coup à Backlund, parce que Backlund s'imposait beaucoup, on a vu Gallagher aussi. Fait qu'il y avait des mini-guerres qui se passaient à travers ce match-là, partout. Puis ça, c'est un élément que j'ai aimé, la façon que le Canadien était capable de répondre. Et ils sont restés dans le match. Ils ne se sont pas fait déclasser. Je pense que Markstrom a été phénoménal, a été très bon. Mais le Canadien s'est fait tester physiquement, comme ça n'était pas arrivé depuis le début de la saison.
Ouais, c'était le premier vrai test là depuis le début. Ça, c'est clair. Puis tu parlais des coups là. Je t'amène un peu ailleurs là, dans la Ligue nationale. J'ai parlé un petit peu du coup à la tête à Kotkaniemi tantôt avec Guillaume. Mais as-tu vu dans le match de vendredi soir entre le Wild et les Kings le geste de Kevin Fiala? L'attaquant du Wild a donné un double échec dans le dos. Là, c'était pas un coup à la tête, c'était dans le dos de Matt Roy. Mais la tête de Roy a frappé assez durement contre la bande. Il a eu besoin de ses coéquipiers pour sortir de la glace. Et tu vois, Fiala s'est fait suspendre par la Ligue 3 matchs sans salaire. Hier, on en a vu un autre, celui de Dylan Dubé à l'endroit de Kotkaniemi. Pas eu de punition. Puis ça nous rappelle évidemment celui de Tyler Myers sur Armia la semaine dernière. Donc, c'est en dent-ci, tu sais, c'est inconstant, je trouve, les sentences que la Ligue et que les arbitres donnent. Tu penses quoi de ça, toi?
Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Pour ce qui est des officiels, des arbitres, c'est difficile. Là, même par le fait qu'on leur donne la chance d'utiliser un peu plus la vidéo, ça arrive tellement rapidement. Ils doivent donner leur décision rapidement que c'est normal. Il y a le côté, puis il y a un plus grand pourcentage de l'erreur humaine qui va être là. Et c'est normal. Mais moi, tu sais, puis George Parros, pour le connaître, puis c'est un gars qui a une tête à ses épaules et il est dans un rôle ingrat de la Ligue nationale parce que peu importe la décision qu'il prend, le monde va la contester, ils ne seront pas d'accord. Donc, il est tout le temps perdant, peu importe les décisions qu'il prend. Mais c'est vrai qu'il y a une inconstance dans tout ça par le fait que c'est certain que s'il y a une certaine époque où moi, je me rappelle mes débuts dans la Ligue nationale, ça, c'était juste une bonne mise en échec. C'était tant mieux, puis t'as sonné la cloche d'un bon joueur à l'autre côté, puis il revient au banc, puis il reçoit des tapes sur les épaules, puis t'as fait ton boulot. Et c'est quelque chose que tu veux enrayer de la Ligue nationale, parce que maintenant, on est beaucoup plus conscient des répercussions que ça a pour l'athlète, pour la santé. Si tu marches dans ce sentier-là et tu dis, bon, mais on veut enrayer ça de la Ligue nationale, c'est des exemples clairs que c'est la tête qui est l'impact. Je comprends que le fait que Dubé s'en venait derrière le filet et c'est à la dernière seconde qu'il a réalisé qu'il pouvait donner une mise en échec à Kotkaniemi. Quand il s'en venait, il faisait juste mettre de la pression et c'est Kotkaniemi lui-même en se retournant rapidement, qui s'est placé dans la trajectoire de Dubé sans le savoir parce qu'il n'avait pas vu venir. Enfin, tout ça se passe en une fraction de seconde. Fait que c'est, je peux pas dire que c'était l'intention de Dubé de donner un coup à la tête. Dubé a vu Kotkaniemi devant lui, il a juste réagi, il s'est tourné. Et oui, le coude frappe la tête, mais pour Dubé, il y a le coude le long du corps. Sauf que combien de temps tu vas défendre ces gestes-là quand tu essaies de les enrayer de la Ligue nationale?
C'est ça. Je pense qu'il faut que tu mettes tes culottes et que tu les bannisses tous. Je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut que ça disparaisse, oui. On est rendu là.
Et le contact, peu importe l'appel que tu vas donner à Dubé, c'est Dubé, puis venant de George Barrow, c'est je comprends le fait que tu as eu une fraction de seconde pour réagir, que c'est pas un mouvement un peu. Fiala, lui, il a plus de temps. Il est en poursuite au joueur, il voit la bande arriver, puis il pousse le joueur dans un moment vulnérable à quelques pieds de la bande, extrêmement dangereux. Dans sa tête, lui, il a eu plus d'informations qu'il était capable d'accumuler avant de faire ce geste-là. Dubé, c'est une réaction. Mais tu as le droit de dire à Dubé, gars, je le sais que tu n'as pas eu le temps de te placer comme il faut, je sais que ton temps de réaction est minime, mais le résultat, c'est un coup à la tête. Mm-hmm. Est un joueur qui a été sonné, son enraisseur de la Ligue nationale. Malheureusement, mon gars, tu vas regarder les trois prochains matchs dans les estrades.
Hey, je t'amène à Pittsburgh maintenant. Dossier Jim Rutherford qui a quitté son poste de DG là, des Pingouins, 71 ans. Il a évoqué des motifs personnels pour quitter qui n'étaient ni reliés à la santé ni à la retraite. Son contrat finissait en juin. Bon, là, on a entendu plein d'affaires cette semaine, mais finalement, on a su là, à peu près la raison de son départ, c'est qu'il n'avait pas les coups des franges pour faire ce qu'il voulait. Autrement dit, un manque de liberté d'action. Et puis, on a entendu que ce serait Christopher Le Temps la cause de ça. Là. Il aurait voulu l'échanger puis ça n'aurait pas passé. Mais moi, je voulais te demander pourquoi seulement Le Temps a été nommé selon toi? Parce que Crosby, Malkin, c'est vieillissant. Puis tu sais, je sais que Crosby, ça sonne intouchable, mais en même temps, si tu veux le monnayer, t'es mieux de le faire pendant que ton joueur a encore une bonne valeur. Tu sais, fait qu'il n'y a pas que Le Temps là-dedans. Là.
Non, c'est vrai, mais c'est sûr que comme franchise, il faut savoir que c'est Mario Lemieux le propriétaire. Mm-hmm. Mario Lemieux qui a été capitaine, qui a été un joueur produit, qui a mis l'uniforme seulement d'une équipe. Et qui a vécu les hauts et les bas de cette organisation-là. J'ai l'impression que le chemin dessiné pour Sidney Crosby, c'est celui-ci. Sidney Crosby va avoir été le joueur des Pingouins et c'est tout. Là où je mets le point d'interrogation, c'est sur les Malkin et les Lotas, justement, des joueurs de grande qualité encore aujourd'hui, qui pourraient t'aider à faire une espèce de reconstruction ou le reset, le fameux reset là, qu'on parlait à Montréal, mais le faire rapidement. Et c'est sûr que si tu attends, parce que les Pingouins, là, ça fait des années qu'ils donnent des choix pour aller chercher les Marleaux. Une année, ça a été Perron, puis le Brassard, puis etc. T'sais, ils ont tout le temps donné ces choix-là. Fait, cette banque d'espoir-là est mince, elle est très mince. Il n'y a pas du gros talent élite qui s'en vient avec les Pingouins dans les prochaines années. Donc, tu vas devoir renflouer ta banque pour être capable de revenir à la compétition. Et c'est sûr que lui, Rutherford, tout ce qu'il voulait, c'était de profiter, de maximiser cette fenêtre-là pour ce qui est d'essayer de gagner une Coupe Stanley, puis de tout faire d'y aller de l'avant. Là, peut-être qu'il y a des principes par lesquels les Pingouins veulent demeurer. Est-ce que Mario veut amener ça, étendre ça jusqu'à Malkin et Le Temps pour dire que ces gars-là, ils ont amené trois Coupes Stanley à Pittsburgh, ils vont reprendre leur retraite comme Pingouins, ils vont avoir leur chandail retiré à Pittsburgh, puis merci, bonsoir, ça vient de terminer la conversation. C'est peut-être ce qui se parle à l'interne, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que il essaie présentement de continuer de maximiser cette fenêtre-là des Crosby, Le Temps et Malkin. Les résultats ne sont pas encore là. Et là, tu réalises que tu n'as plus grand-chose à donner. Il t'en donne juste un choix de première ronde par année. Là. Puis là, s'il est tout le temps monnayé, il est tout le temps envoyé, ça devient difficile de remplir la banque. J'ai bien hâte de voir ce que les Pingouins vont être capables de faire avec ça dans le futur. Puis ça devient compliqué pour eux aussi d'aller trouver ce directeur gérant-là en pleine saison, dans le synchronisme des choses. C'est que les gars qui auraient le potentiel, les gens qui auraient le potentiel de venir remplir ce rôle-là, ben, sont sûrement impliqués ailleurs dans la Ligue nationale, dans un rôle important, dans des équipes qui se préparent, espèrent faire les séries. On a nommé un Fitzgerald avec le New Jersey, mais là, le New Jersey ne voudrait pas le laisser parler présentement. Il y a des noms comme Mellenby à Montréal qui sont parlés, mais c'est toutes des équipes qui sont en chemin présentement, qui sont à se préparer, sont à préparer une date limite des transactions dans une saison qui est hors de l'ordinaire, ça devient très compliqué de magasiner un directeur général.
Merci, Bruno. Je vais te rappeler.
J'ai passé le test.
T'as passé le test. Yes. Je te laisse aller. On n'a plus de temps. Merci d'avoir été là. Et restez là. J'ai une excellente invitée tout de suite après la pause. Une Olympienne qui a traversé vents et marées jusqu'ici, qui a pas eu un parcours de tout repos et qui est toujours en attente de savoir si elle pourra aller à Tokyo. Laurence Vincent Lapointe avec moi dans quelques instants.